l'hebdo des régions, avec la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers.
Bienvenue sur Radio Immo, nous sommes en direct à 11h pour ce nouvel épisode de l'Hebdo des Régions, notre émission en partenariat avec la FPI. Au programme, comme d'habitude, le mot du président de région. Suspense, Christophe nous dévoilera d'ici quelques instants dans quelle région on part cette fois-ci.
Et quelle région ?
Et quelle région ? Il y aura votre édito également ?
Oui, si vous êtes sage.
Qu'on attend avec toujours une grande impatience. Et enfin, le débat avec nos invités du jour. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale, justement, puisque nous quittons la métropole pour nous envoler. Où, cher Christophe ?
À La Réunion.
Sur l'île
Allez,
de La Réunion.
Les claquettes, le maillot de bain, c'est parti.
Tellement besoin de
la
vacances.
La planche aussi, hein. Vous faites de la planche, vous, ou pas ?
Écoutez, ça fait longtemps que j'aimerais prendre des cours.
Faire attention aux requins, là-bas.
Ouais, il faut faire attention. Oui, je crois qu'il y a eu quelques accidents qui ont fait du bruit. Donc, qui nous fait le plaisir de partager ce plateau pour nous parler de cette belle île ?
Eh bien, écoutez, avec nous aujourd'hui, Stéphane Sens, qui est président de la Fédération des promoteurs immobiliers de La Réunion. Bonjour à vous et bienvenue, évidemment, dans cette émission. Et puis, David Lorion, qui est député de l'île de La Réunion. Et ça fait rêver, être député de l'île de La Réunion.
Bonjour.
Hein, on a envie d'être député de l'île de La Réunion, nous aussi. Hein. Ça a l'air très agréable, quand même. Hein. Vous allez bien ?
Très bien, merci.
Bon,
très bien, mais je suis dans la ville de Lille en ce moment. Je ne suis pas à La Réunion, mais c'est pratiquement pareil.
Ah, vous êtes dans Chenor ? Qu'est-ce que vous faites dans Chenor ?
Oh, je vais rendre visite à ma fille qui fait des études à Lille, voilà.
Ah, ça change de La Réunion, évidemment.
Exactement.
C'est un autre exotisme, le Nord.
On est aux antipodes, effectivement. Bon. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose qu'on démarre tout de suite dans la bonne humeur cette émission avec le mot du président. Donc, cher Stéphane, si vous pouvez nous dire deux petits mots sur la présentation de la FPI régionale, de votre fonction et un petit peu de votre région.
Alors, tout à fait. On est donc La Réunion, la Fédération des promoteurs immobiliers de La Réunion a été créée en 2006. J'en suis maintenant le président après avoir fait 3 ans de vice-président derrière M. Éric Ouillet, qui était le patron de CBO. On représente une petite partie, on est moins d'une dizaine de promoteurs sur notre fédération. Et on représente 90% de la production de logements libres et à peu près 50% de la production de logements sociaux sur une année.
C'est une île qui, juste pour l'info géographique, qui est comment au niveau de sa taille ? Parce que là, du coup, 10 promoteurs, vous représentez 90% de la production de logements sur l'île, si j'ai bien compris. Donc c'est un petit marché. Est-ce qu'on peut parler de petit marché ?
C'est effectivement un petit marché. On produit environ un peu moins de 1000 logements libres par an. Et puis en social, on en produit à peu près entre 1200 et 1300 par an. Après, il y a toute la partie maison, ce qu'on appelle nous le diffus, mais qui est très peu fait par les promoteurs de la fédération, qui est beaucoup fait par les constructeurs de maisons individuelles. Et il s'en produit à peu près entre 800 et 1000 par an. Donc on est sur un marché de production de logements à l'année d'à peu près 3500 à 4000 lots en moyenne sur les 5 dernières années.
Et à quoi ça ressemble un logement à La Réunion ? Parce que j'imagine qu'ils sont très différents de ceux des métropoles.
Ah ben, vous serez surpris, pas tant que ça en fait.
Pas tant que ça.
Pas tant que ça. On a des chambres, on a des cuisines, on a des salles de bain.
C'est fou, on imagine.
C'est un truc de fou. On a effectivement quelques particularités parce que vu notre climat vu notre position insulaire et notre climat tropical, on a des règles que vous n'avez pas, mais une grosse partie de nos règles et normes sont celles de la métropole. Alors, pas forcément toujours en adéquation avec le climat, et justement, on travaille longuement là-dessus, et David Lorion, qui est présent avec moi dans l'émission, est l'une des personnes avec qui on travaille sur ces points-là, puisqu'on est en train d'essayer de mettre en place du bâti tropical, donc des labels qui nous sont propres. Pour vous donner un exemple, on a encore la règle de verglas à La Réunion.
Ça nous
arrive, hein, mais c'est quand même relativement rare. C'est uniquement dans les hauteurs et dans des périodes très spécifiques de l'année.
Stéphane, hein, dans notre deuxième partie, bien sûr, on reparlera de ces règles spécifiques à votre insularité.
Mais sinon, pour répondre à votre question, sinon non, nos logements sont les mêmes que les vôtres. On a une salle de bain, on a des vestiaires, on a tout pareil. Bon,
en même temps, la Réunion, c'est la France, hein, donc voilà.
Complètement.
Je n'ai jamais eu l'occasion de m'y rendre. Je ne sais pas si vous, Christophe, vous y êtes déjà allé, mais en tout cas, j'espère pouvoir
Je vais vous faire rêver dans un instant. Mais je vous emmène dans un instant.
C'est ça. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter ce petit édito de Christophe Bordet qui va présenter sous un jour un peu humoristique votre région.
Oui.
L'hebdo des régions, avec la Fédération des promoteurs immobiliers.
Bon, elle a mis son maillot de bain de pièces, donc tout est OK maintenant, on peut y aller. Ah, qu'est-ce qu'on est bien aujourd'hui, hein. Oh là là, on est bien, mon rêve. Oui, c'est un de mes rêves, depuis tout petit. Oui, la Réunion dans l'océan Indien. Aller à la Réunion dans l'océan Indien, île volcanique, recouverte de forêts tropicales, ses récifs de corail, ses plages, son site le plus emblématique, le Piton de la Fournaise, un volcan actif qui s'élève à 2632 mètres d'altitude. On peut faire de l'escalade. C'est beau. Mais c'est beau, c'est incroyablement beau. La Réunion, pour les métropolitains comme nous, ça veut dire tout simplement les vacances, farniente et tutti quanti. On peut investir là-bas aussi, ma chère Charlotte, si ça vous dit. Oui.
Mais dites-moi tout.
Fiscalement, ce n'est pas inintéressant non plus. Il y a des choses à faire. On en parlera avec monsieur le député dans un instant, probablement. Côté habitat, alors on va faire un peu d'histoire. Ouais, on va faire un peu d'histoire. Il y a eu la hutte, la paillote. Tiens, allez, la paillote. En 1950, elle représente, les paillotes, 70% des habitations sur l'île. C'est pas rien quand même.
C'est pas rien.
La maison en madrier également. Donc en madrier, c'est du bois. Hein. La maison de maître, et j'en passe, c'est des meilleurs. N'oublions pas que le passé colonial a laissé de nombreuses traces dans l'architecture de l'île, comme à Saint-Denis par exemple, Saint-Denis de la Réunion. Alors il y a l'arrivée du béton hein, dans les années 30-50. Problème, le béton conserve et emmagasine la chaleur, ce qui n'est pas forcément évident. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a construit des bâtiments où il y avait beaucoup d'aération entre l'arrière et l'avant du bâtiment. Il fallait que l'air circule bien évidemment. Dans les années 70, on construit de plus en plus en hauteur et le logement se standardise. Eh bien, aujourd'hui, c'est effectivement comme partout en France, si je puis dire, malgré quelques règles qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est de l'urbanisme durable. On construit des logements confortables, économiques. Le changement climatique modifie les habitudes. Et ça, donc, nous allons en parler ensemble tout de suite, les amis. Voilà.
Eh bien, merci, Christophe. On va demander à nos invités ce qu'ils ont pensé de ce petit descriptif
rapide, efficace.
Historique. Voilà. Je vous ai trouvé sobre aujourd'hui, Christophe.
Oui, sobre.
Stéphane, est-ce que vous avez reconnu votre île?
Complètement.
Complètement.
Oui, complètement.
Vous avez, j'imagine, en tant que promoteur, du coup, je me permets de vous poser la question, la notion de cette historique, même si je sais qu'au fond, votre accent trahit une vie métropolitaine antérieure.
Ça, c'est entendu.
Voilà, la notion de cette évolution de l'habitat sur l'île de la Réunion.
Oui, complètement. Et ça fait partie des sujets toujours au cœur de nos préoccupations. On voit souvent la promotion immobilière comme un métier figé. Alors, il l'a dit, hein, on fait du béton, donc le béton, ça bouge quand même pas beaucoup. On a l'impression qu'on est figé. En fait, c'est pas vrai. C'est un métier qui est constamment en train d'être obligé de se réinventer. Dans des endroits comme la Réunion, c'est plus qu'une obligation. Hein. Si vous faites pas ça, vous n'êtes pas en adéquation avec votre île, avec votre environnement. Donc oui, l'évolution que votre collègue a donnée est exactement la bonne. On continue à la faire évoluer. Tout à l'heure, on parlait de label bâti tropical. Hein. C'est exactement dans cette démarche que l'on s'inscrit. Où on essaye de se rapprocher de plus en plus d'une construction, d'une typologie de construction en adéquation avec l'écosystème dans lequel on vit, avec la nature, avec tout ça, puisque bah oui, le béton, c'est un magazine de la chaleur. Tout à l'heure, vous parliez de normes. On n'a pas les mêmes normes, ne serait-ce que les normes écologiques, la fameuse RTA que vous avez chez vous. Et nous, on a une version spéciale pour nous, qui est une RTA d'hommes, et on est obligé d'avoir des appartements traversants, etc. etc., etc.
Ce qui est quand même très intéressant, c'est que quand on regarde effectivement, comme je l'ai un peu dit, là, l'histoire du bâti sur l'île, alors qu'aujourd'hui on revient justement à un bâti avec des produits entre guillemets naturels, du bois, etc. etc.
Écologique, n'ayons pas peur.
Non, mais vous avez, ce qui est intéressant sur l'île, c'est que vous avez déjà toute cette culture en réalité.
Oui, tout à fait.
Et donc ça va plus vite, quoi, aujourd'hui, j'imagine, pour imaginer aussi des bâtiments quelque
plus
part.
Plus vite, le terme est un peu fort, je pense.
Bon,
non, pas plus vite.
Oui, il y a des questions financières probablement derrière.
Alors, il y a des questions financières. On reste quand même sur une île, donc on a un climat tropical. Donc, il est tropical, dit quand même très humide. Le bois, même si ça a été une solution, on ne peut pas non plus l'appliquer partout et n'importe comment. On a, et David, qui est aujourd'hui député et qui avant était à l'urbanisme, le sait, je pense, aussi bien, même sûrement mieux que moi. On a quelques bâtiments où il y a eu du bois beaucoup utilisé et qui, aujourd'hui, qui vieillissent pas forcément bien.
Qui sont pas pérennes. Mais justement, on va poser la question à David, Stéphane. David, déjà, êtes-vous, enfin, vous allez réagir sur cet édito et sur ce que vient de dire Stéphane, mais êtes-vous originaire de Lille ?
Oui, tout à fait. L'île de la Réunion a été colonisée à la fin du XVIIe siècle et parfois bien avant d'autres régions françaises. Et je disais à des étudiants lillois récemment, Lille, la métropole de Lille dans le nord de la France, est devenue française après l'île de la Réunion dans l'océan Indien. L'île de la Réunion est devenue française en 1664 et la métropole de Lille a été conquise en fait par Louis XIV en 1667.
C'est incroyable. Vous voyez
que l'île de la Réunion est française depuis plus longtemps que la métropole de Lille et des générations, dont mes aïeux en fait, sont arrivés à la Réunion au cours du XVIIIe et XIXe siècle.
C'est merveilleux. Bah, on est ravis, en tout cas, d'avoir un natif avec nous sur ce plateau. Par rapport à
nous sommes assez nombreux, vous savez, à La Réunion. Parce que
c'est quoi la proportion, Réunion, justement, de métropolitains et de natifs?
Bon, c'est la même que dans toutes les autres régions françaises. On n'est pas très spécifique là-dessus. Il y a à peu près 860 000 habitants, pour arrondir à l'île de La Réunion. C'est à peu près la moitié des 2 millions d'habitants qui habitent les Outre-mer. Parce qu'effectivement, et Stéphane le disait, il existe une France continentale et il existe une France d'Outre-mer. C'est la chance de la France d'avoir justement ces Outre-mer. Elle n'est pas si différente, cette France des Outre-mer, sur beaucoup de domaines, hein, et sur le logement. À la différence près que, certes, nous avons des salles de bain, nous avons des cuisines, des chambres et nous avons aussi des toilettes. Mais quelquefois, l'adaptation climatique fait, par exemple, que nous n'avons pas de chauffage à l'intérieur de nos maisons, de nos appartements. Nous avons plutôt des climatisations et la nécessité, quelquefois, de construire avec une architecture traversante pour minimiser justement les coûts d'électricité pour les climatisations. Et ce qui n'est pas tout à fait la même chose que lorsqu'on va chauffer un logement avec une chaudière à fioul ou à gaz. Et quelquefois, le gouvernement a ce réflexe qui est évidemment de prendre des normes nationales, MaPrimeRénov', par exemple, hein, pour des problèmes thermiques du bâtiment liés à la continentalité, ne pense pas toujours, évidemment, qu'une partie de la France outre-mer ne souffre pas forcément de la chaleur, évidemment, ou du froid dans les logements, mais plutôt de la chaleur. Voilà.
Oui, bah,
donc, sur ces aspects-là, il y a une nécessité, évidemment, de prendre des mesures législatives mieux adaptées, quelquefois, à cette situation de la France ultramarine.
D'adapter au climat régional. Mais c'est vrai que, vous savez, vous n'êtes pas les seuls. On a reçu dans cette émission, notamment, je pense, à la montagne, des logements qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques que ce qu'on peut avoir dans des régions où il ne fait pas froid et qui ont des normes spécifiques aussi pour la neige sur les toits, etc. etc. Donc, une approche effectivement régionale en ce qui concerne...
Non, mais en même temps, c'est normal qu'il y ait une règle commune et qu'après, on puisse l'adapter en fonction des territoires et évidemment de leur climat.
Tout à fait. Voilà.
Si je peux me permettre, on a une deuxième différence qui n'est pas tout à fait neutre quand même. Cette différence, c'est que notre population, globalement, elle est plus pauvre. Et donc, l'accès à la propriété est plus difficile souvent dans les Outre-mer. Pour vous donner juste un chiffre pour que tout le monde saisisse cette difficulté, seulement un tiers des ménages à l'île de la Réunion, qui est l'île en Outre-mer qui est la plus riche, est imposé. 22% à peu près, le quart de la population, ont des revenus inférieurs à 500 euros par mois. Et donc, vous voyez bien que seuls 20% des ménages peuvent accéder à la propriété pour un bien, par exemple, de 1 200 euros par mois sur 20 ans. Donc, on a cette situation sociale d'accès au logement, d'accès à la propriété qui n'est pas non plus tout à fait le même contexte que l'on trouve en France continentale. Et à contrario, on a donc un besoin annuel de logement qui est très important, qui est 2 à 3 fois supérieur de celui de n'importe quelle région métropolitaine. Donc, vous voyez l'importance de votre émission, évidemment, aujourd'hui avec Stéphane, et l'importance de bien faire prendre conscience qu'il y a une nécessité de construire plus et une nécessité de construire mieux lorsqu'on est en Outre-mer.
Mmh. Oui, on entend bien vos particularités. Je vous propose d'aborder justement la question vraiment conjoncturelle du marché réunionnais. Comment se comporte justement le marché sur l'île en ce moment suite à la conjoncture Covid? Quel a été l'impact que vous avez eu sur l'île? Est-ce que ça a été mesuré ou pas? Est-ce que vous avez eu des problèmes, notamment, je pense, à votre insularité avec des soucis de fret?
Excuse-moi.
Vas-y.
Est posé à Stéphane ou à moi?
Alors, je vais interroger les deux. Je laisse éventuellement David commencer, et puis ensuite Stéphane nous donnera son opinion.
Alors, sur la question sanitaire, on a à peu près les mêmes contraintes. Stéphane le précisera, mais les difficultés de fonctionnement des entreprises, le confinement, les difficultés de distanciation sociale, les précautions à prendre des entreprises, on va le retrouver évidemment en France métropolitaine comme à La Réunion. Probablement, plus spécifiquement, un sujet qui concerne l'approvisionnement en matériaux dans tous les domaines évidemment de la construction, la difficulté parfois à finir un chantier lorsqu'il y a une difficulté d'approvisionnement, et puis de l'autre côté de la chaîne, les collectivités qui sont l'un des principaux les principales donneurs d'ordre, notamment pour ce qui concerne le logement social, ont des difficultés financières. Et là aussi, évidemment, ça se répercute sur les entreprises, avec parfois des délais évidemment de paiement qui s'allongent. Mais Stéphane pourra nous dire un peu plus. Mais évidemment, cette crise a eu des conséquences, et encore sur l'année 2020, des conséquences importantes, notamment sur la production de logements à La Réunion.
Stéphane.
Alors, tout à fait, je rejoins bien sûr David sur son analyse et il a entièrement raison. On a eu une chance, c'est qu'on a déconfiné entre guillemets les entreprises un peu plus tôt. On a confiné comme vous en 2020, à peu près dans la même semaine, avec une réaction très très rapide de l'ensemble des syndicats professionnels où on s'est tous mis d'accord pour que on fasse ça intelligemment tous ensemble. Donc, on a une forte assise et une forte entente entre les bailleurs sociaux, la FFB locale, qui est chez nous, et la FRBTP, les promoteurs immobiliers. Donc, on se connaît, on s'entend. Enfin, en tout cas, on discute, on échange beaucoup. On a réussi à limiter la casse pour les entreprises, donc pour les employés. On n'a pas beaucoup de sociétés qui ont fermé. On a réussi à reprendre le travail relativement vite, dans des conditions bien sûr dégradées, puisque comme l'a dit très justement David, les normes n'étant pas au début, elles étaient quand même très incertaines, donc il a fallu qu'on s'adapte au fur et à mesure de la mise en place des nouvelles normes, il a fallu qu'on remette tout en question, mais on a réussi. Et l'impact, est rapidement en chiffres, l'impact sur la production des logements en 2020, on a perdu un peu moins de 20% de la production classique. Sur 2019, on avait produit à peu près entre 1040 et 1100 logements, et sur 2020, on a produit entre 800 et 850 logements. Donc, on a perdu à peu près 200 logements qui sont dus, bien sûr, à beaucoup de paramètres, le retard de chantier, et le point qui est pour nous le plus gênant, et vous l'avez dit, Charlotte, c'est notre insularité. Donc, on est livré essentiellement par bateau. Se pose à l'aide de problèmes, enfin même 3 problèmes, c'est que beaucoup d'usines en métropole se sont arrêtées, métropole ou ailleurs. Le redémarrage de ces usines-là n'a pas été neutre. À ça, bien sûr, il a fallu qu'on puisse amener les matériaux chez nous, et les bateaux ont aussi ralenti leur cadence. Et les deux cumulés fait que on arrive aujourd'hui sur un marché où nous, moi personnellement, sur un de mes chantiers, j'ai eu le cas. une commande passée en mars 2020, on n'a jamais reçu le matériel.
Ouais.
Donc il a fallu qu'on s'adapte, qu'on aille trouver d'autres choses. Donc on a quand même une...
Vous avez souffert de la même chose que les métropolitains, mais peut-être un peu aggravé du fait de votre insularité, effectivement.
Exactement. Bon. Exactement.
Eh bien écoutez, je vous propose justement de réaborder cette question des normes dont on a déjà touché deux mots tout à l'heure, les normes spécifiques à l'outre-mer, parce que je vous avoue, c'est pas très clair pour nous, justement, en métropole. Alors est-ce que vous pouvez nous toucher deux mots des différences justement qui vous caractérisent?
Alors la plus grande différence qui nous caractérise, ce que disait David et ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est qu'effectivement on n'est pas soumis à la même RTA DOM. La RTA DOM, c'est la loi sur le climat, en fait, l'utilisation donc de tout ça. Nous on a une obligation de rendre ce qu'on appelle les appartements traversants, ce qui veut dire qu'il faut que d'un bout à l'autre l'air puisse circuler et puisse ventiler l'appartement de manière naturelle. On n'a pas de chauffage, on a des clims, mais il faut que les appartements soient traversants pour pouvoir ne pas être obligé d'avoir la clim tout le temps allumée et que votre appartement soit ventilé. Ce qui donc fait en sorte qu'on n'a pas de couloir chez nous. Vous avez des couloirs à l'intérieur des bâtiments, nous on n'en a pas. Tout est surcoursier.
C'est original.
Donc ça, c'est une autre de nos grandes particularités, c'est ça. C'est qu'on a des coursives, alors ou internes au bâtiment qui desservent des appartements ou le long d'un bâtiment, mais on a forcément des coursives pour que les appartements soient traversants. Donc ça, c'est la vraie grosse modification qu'on a par rapport à la métropole. On n'a pas de double vitrage, parce qu'on n'a aucun intérêt à conserver la chaleur à l'intérieur de l'appartement, mais c'est plutôt à l'extérieur qu'il faut qu'il reste. Donc là, on a un certain nombre de choses comme ça que vous n'avez pas. Et je reparlais récemment avec un de mes confrères, président de fédération en métropole, qui se demandaient comment justement ils allaient faire pour pouvoir mettre en place des normes pour que on est dans les régions chaudes de la France, on n'est pas à mettre des clims systématiquement. Et quand je lui dis, ben nous on fait les appartements traversants depuis presque 10 ans, il m'a regardé avec des grands yeux en me disant, c'est pas bête votre truc. En fait, c'est surtout qu'on est obligé. Donc il y a une différence. On peut aussi nous amener des choses dans la métropole sur certaines normes qu'on a déjà, nous, utilisées.
Je vais faire un point par rapport à ce que vous disiez. D'abord, il faut se dire aussi que les appartements traversants, il y en a beaucoup qui ont été construits, par exemple, dans les années 20, les années 30. Enfin, moi, j'en ai habité un, par exemple. C'était vraiment intéressant parce qu'effectivement, l'air circulait, etc. Et c'était plutôt agréable, d'ailleurs. Et d'ailleurs, avec le changement climatique aussi en métropole, effectivement, peut-être que ce système, dans certaines régions de France, il faudrait l'utiliser plus. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est au niveau prix, parce que le métropolitain que je suis, on ne sait jamais, peut avoir envie d'investir chez vous. Est-ce que le fait que cette construction soit différenciée, qu'il y ait moins de contraintes, pas de double vitrage, certes la clim, mais pas tout un système de chauffage, etc. Est-ce que ça veut dire qu'à l'achat d'un appartement neuf, par exemple, chez vous, ça peut être moins cher qu'en métropole, ou bien quand même ça va être le même prix, voire plus cher, parce qu'on paye quand même, le paradis sur Terre, quoi.
Alors, vous ne payez pas le paradis sur Terre, mais on paye par contre notre fait qu'on soit insulaire. Hein, donc nous, on a quand même un coût de matériel qui est supérieur à la métropole, parce qu'il vient en bateau, et on a un coût de transport qui n'est pas neutre. Et donc, du coup, rien que ça fait en sorte que... alors, je vais sortir Paris de l'équation, parce que Paris est un marché très spécifique.
Encore, hein. Oui, oui.
On est d'accord. Mais je compare à ma région d'origine, Montpellier, je suis sur des tarifs entre 5 et 10% un peu plus élevés pour des typologies identiques. Bon, après, il y a quand même une particularité, c'est que nous, vous avez normalement presque toujours la vue mer, à peu de choses près, et on est quand même sur des, sur des produits très long terme aussi, hein, comme les autres régions. Donc, mais le fait qu'ils soient traversants et qu'on ait un peu moins de choses dedans ne les rend pas forcément moins chers.
Un T3, c'est combien à peu près? Allez.
Alors, suivant où est-ce qu'il est placé, vous êtes un T3, pour avoir des bons chiffres en tête, qui fait entre 66 mètres carrés habitable et 70 avec ce qu'on appelle une varangue, c'est-à-dire une terrasse couverte, qui fait à peu près entre 10 et 14, vous êtes entre 250 000 euros et 300 000 euros.
Ouais.
Mmh. Bah justement, on va rester sur la problématique sociale, financière, et j'aimerais interroger David sur le troisième sujet qui va nous préoccuper, à savoir le besoin de logement sur l'île de La Réunion. On imagine bien que pour un député, il y a forcément des problématiques, j'allais dire, électorales, qui se jouent quand on parle de logement. Donc David, est-ce que vous êtes toujours avec nous?
Oui, je vous entends et je vous écoute. Et j'écoute avec beaucoup d'attention, évidemment, les propos de Stéphane, qui sont très intéressants. Ouais.
On ne vous voit plus, David. Je ne sais pas si vous êtes devant la caméra, mais bon.
Je sais, je suis devant la caméra.
Bon, ça va, tout va bien.
Moi, je vois, il n'y a pas de souci.
On vous entend, c'est l'essentiel. Dites-nous.
Ben oui, il y a évidemment, je vous ai dit, hein, une demande de logement qui est une demande beaucoup plus importante que dans n'importe quelle région française. 22 000 familles sont en attente d'un logement social. Il y a aussi de très nombreux logements qu'il faut réhabiliter avec des réhabilitations lourdes. Et on a, grosso modo, un besoin annuel, et Stéphane pourra le confirmer, privé et public, environ de 9 000 logements nouveaux par an. Le gouvernement en a pris conscience et a mis en place un plan, un programme de logement d'outre-mer notamment, qui est relativement important, sans moyens supplémentaires, mais qui prévoit à peu près 4 000 logements sociaux neufs par an pour la période donc 2020-2022. Voilà.
On en est tous là, sans moyens supplémentaires. Stéphane, par rapport à ça, en tant que promoteur, comment vous réagissez à cette forte demande? Est-ce que vous êtes en mesure de faire face à cette demande?
Non, non, clairement pas. On va pas se mentir. C'est un propos que je tiens aux collectivités depuis maintenant 5-6 ans que je suis là. Il y a une production effectivement de 8 à 9 000 logements à réaliser par an. C'est une étude INSEE qui dit que jusqu'en 2035, de 2013 à 2035, il faudrait produire 169 000 logements. Ça fait une moyenne de 8 000 à 9 000 logements par an. On a déjà beaucoup de retard. Et aujourd'hui, même si tout le monde s'y mettait, entre guillemets, à boucher double, je ne pense pas qu'on y arriverait. Puisqu'il y a beaucoup de contraintes, il faut trouver des fonciers, etc., etc. Donc, c'est pas chose aisée. On essaie de maintenir la production à un niveau élevé, avec toutes les contraintes qu'on peut avoir. Le Covid nous a, je ne vous cache pas du tout aidé, mais on essaie de faire ça. Et donc, ce que dit David à juste titre, c'est qu'effectivement, il y a eu le fameux PLOM dont on parlait, c'est le plan logement outre-mer qui a été mis en place, qui finit 2022, avec un certain nombre de choses, justement, pour accompagner l'ensemble des acteurs de la production, que ce soit les promoteurs, les bailleurs sociaux et autres, sur une production un peu plus régulière de logements. Mais on a un problème de moyens, on a un problème de temps. Et on est sur une île, on est pris entre la mer et la montagne, donc le foncier, il n'est aussi pas forcément très disponible. Et on ne peut pas construire non plus n'importe où et n'importe comment, sinon ça voudrait dire qu'on ne respecte plus l'environnement dans lequel on vit, quoi.
Alors juste peut-être pour compléter ce que dit Stéphane, si vous m'entendez.
Allez-y, oui. David.
Je voudrais quand même vous dire qu'effectivement, il y a une autre contrainte qui est une contrainte importante à La Réunion, qui est la contrainte cyclonique, que vous ne connaissez pas forcément en métropole. Mais on a vu récemment, notamment aux Antilles, avec Irma, que les vents et les pluies, les inondations nécessite évidemment que l'on construise un peu différemment parfois que en zone tropicale. Les toitures, les façades notamment doivent résister à des vitesses de vent qui sont importantes. Irma a relevé en fait toutes les contraintes aujourd'hui, notamment en Outre-mer. Il y a une juste mesure à trouver notamment sur les contraintes qu'il faut appliquer et je sais que l'ensemble de la filière, notamment de construction de logements, que ce soit les architectes, que ce soit les bureaux d'études, que ce soit les constructeurs, les promoteurs, mais aussi les collectivités, sont en train justement de demander à l'État d'avoir un programme de normes qui rende possible les constructions de logements, qui ne freinent pas évidemment ces constructions, pour qu'en même temps, on ait des logements qui soient adaptés à notre climat, et notamment aux cyclones tropicaux, et en même temps, évidemment, que ces logements soient à un prix abordable, parce que Stéphane a donné effectivement des prix pour des F3, mais comme vous, ça dépend évidemment du foncier, ça dépend de la localisation de ce F3, évidemment, s'il est en ville, s'il est dans une grande ville, s'il est
bien sûr
une zone résidentielle, le coût va varier forcément, voilà.
C'était une fourchette. Eh ben effectivement, je crois qu'on a bien compris les problématiques qui concernent l'île de la Réunion, donc un manque de logement, une problématique sociale un petit peu compliquée avec un accès à la propriété qui concerne seulement 20% de la population. En tout cas, on est ravis d'avoir pu découvrir et de vous avoir écouté sur les problèmes que vous rencontrez, même si vous êtes très loin de nous, on les entend et je crois que d'après ce que vous venez de nous expliquer, le gouvernement en a pris conscience aussi, donc c'est une bonne chose. Voilà, cette émission va contribuer aussi à ça, on l'espère. Messieurs, on vous remercie énormément. Malheureusement, notre émission touche déjà à sa fin parce que oui, ça passe vite l'hebdo des régions. Quand on est en bonne compagnie, ça passe toujours vite. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci Christophe pour votre édito. Toujours très agréable. Et je vous dis à très bientôt dans l'hebdo des régions.
L'hebdo des régions. Avec la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers. Une émission à réécouter et télécharger sur radio.imo, l'application mobile radio.imo et tous les agrégateurs de podcasts.